Chapitre 27. Je m'appelle Jacob Schulman. J'écris cette lettre à mes amis de Lodz. Mes très chers amis, pour vous écrire, j'ai attendu une confirmation de ce que j'avais entendu dire. Hélas, à notre grande désolation, nous savons tout maintenant. J'ai parlé à un témoin oculaire qui a réussi à s'enfuir. Il m'a tout raconté. Ils ont été exterminés à Chelmno, près de Dombi, et enterrés dans la forêt de Gerzow. On tue les Juifs de deux manières. Ils sont fusillés ou gazés. Cela vient d'arriver à des milliers de Juifs de Lodz. Ne croyez pas que cette lettre a été écrite par un fou. Hélas, c'est la tragique, horrible vérité. Horreur, horreur. Homme, déchire tes vêtements, couvre ta tête de cendres, cours dans les rues et danse dans ta folie. Je suis si las que ma plume ne peut plus écrire. Créateur de l'univers, viens à notre secours. J'écris cette lettre le 19 janvier 1942. Quelques semaines plus tard, lors du dégel de février, alors qu'une faible odeur de printemps flotte dans les bois entourant notre ville de Grabow, nous, les hommes détenus dans le camp, sommes chargés dans des camions. On a peint des arbres des tropiques et des animaux de la jungle sur certains d'entre eux. Ce sont les camions des enfants de l'été dernier, quand on les a emmenés du camp. La peinture a pâli durant l'hiver, et les Allemands ne se sont pas donné la peine de les repeindre, si bien que les images gaies semblent s'effacer comme les rêves de l'été dernier. Nous roulons pendant 15 kilomètres jusqu'à Chelmno, que les Allemands appellent Kulmhof. Là, ils nous ordonnent de descendre et exigent que nous nous soulagions dans la forêt. Je n'y arrive pas. Pas avec les gardes et les autres hommes qui regardent. Mais je fais semblant d'avoir uriné et je reboutonne mon pantalon. Ils nous font remonter dans les gros camions et nous emmènent jusqu'à un vieux château. Là, ils nous ordonnent de sortir, nous font traverser une cour jonchée de vêtements et de chaussures, puis descendre dans une cave. Sur le mur, il y a écrit en yiddish « Personne ne sort d'ici vivant ». Nous sommes des centaines dans la cave, rien que des hommes, rien que des Polonais, la plupart venus des bourgades proches, comme Grabow et Kolo, mais beaucoup sont de Lodz. L'air sent l'humidité, la pourriture, la pierre froide et la moisissure. Au bout de plusieurs heures, lorsque la lumière décline, nous sortons vivants de la cave. D'autres camions sont arrivés, plus grands, avec des portes à double battant. Ils sont verts. Il n'y a pas d'image peinte sur les côtés. Les gardes ouvrent les portes, et je peux voir que la plupart de ces très grands camions sont presque pleins. Chacun contient de 60 à 80 hommes. Je ne reconnais aucun d'entre eux. Les Allemands nous poussent et nous battent pour nous faire monter plus vite. Beaucoup d'hommes que je connais poussent des cris. Aussi je les guide dans la prière tandis qu'on nous entasse dans les véhicules qui sentent mauvais. Shema Israël, prions-nous. Nous prions toujours lorsqu'on referme bruyamment les portes du camion. Dehors, les Allemands engueulent le conducteur polonais et ses assistants, polonais aussi. J'entends l'un d'eux crier le gaz en polonais, puis c'est le bruit d'un tuyau qu'on branche quelque part sous notre camion. Le moteur redémarre avec un rugissement. Certains d'entre nous continuent à prier avec moi, mais la plupart se mettent à hurler. Le camion démarre très lentement. Je sais que nous prenons l'étroite route asphaltée que les Allemands ont fait construire et qui part de Chelmno pour s'enfoncer dans la forêt. Tous les villageois s'en sont étonnés parce qu'elle ne mène nulle part. Elle s'arrête dans la forêt, à un endroit où elle s'élargit pour que les camions puissent faire demi-tour. Mais il n'y a là que la forêt et les fours que les Allemands nous ont ordonné de bâtir et les fosses que les Allemands nous ont fait creuser. Les Juifs du camp qui travaillaient sur cette route, qui ont creusé ces fosses et qui ont bâti les fours dans la forêt nous l'ont dit. Nous ne les avons pas crus quand ils nous l'ont raconté, et puis ils sont partis, on les a transférés. L'air devient lourd, les cris montent, j'ai mal à la tête, on a du mal à respirer. Mon cœur tape comme un fou. Je tiens les mains d'un jeune homme, un gamin à ma gauche et d'un vieil homme à ma droite. Tous deux prient avec moi. Dans notre camion, quelqu'un chante plus fort que les cris. Chante en yiddish. Chante d'une voix de baryton qu'on a exercée pour l'opéra. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés? Nous avons déjà été poussés dans le feu, mais nous n'avons jamais renié ta sainte loi. Aîné, mon Dieu, quoi? Chut, tout va bien, mon chéri, je suis là. Je ne... Quoi?
Je m'appelle Caltrine Cathéienne Endymion. Je suis l'épouse de Trorb Endymion, qui est mort il y a 5 mois locaux d'un accident de chasse. Je suis aussi la mère d'un enfant appelé Roll, qui a maintenant 3 ans d'Hyperion, et qui, surveillé par ses tantes, joue près du feu de camp au centre de la caravane. Je gravis la colline herbue surplombant la vallée où les chariots ont formé le cercle pour la nuit. Il y a quelques triaspens le long du cours d'eau, mais à part cela, aucun point de repère. La lande n'est qu'herbe, bruyère, carex, rocher, grosse pierre et lichen. Et moutons. Je vois et j'entends les centaines de moutons de la caravane qui se rassemblent sur les collines, à l'est, sous la conduite des chiens de berger. Grande dame raccommode des vêtements sur un affleurement rocheux, d'où l'on voit toute la vallée. Il y a une brume à l'horizon ouest, qui indique une étendue d'eau, la mer, mais le monde immédiat se limite à la lande, au ciel vespéral d'un bleu lapis qui s'assombrit, aux traînées des météores qui le traversent silencieusement en tous sens, et au bruit du vent dans les herbes. Je m'assois sur un rocher près de Grande Dame. C'est la mère de ma défunte mère, et son visage est le nôtre, mais plus vieux, couronné de courts cheveux blancs, à la peau tannée, au trait fort, au nez en lame de couteau, et aux yeux bruns avec les pattes d'oie du rire.
« Te voilà enfin revenu, »
dit la femme plus âgée.
« Le retour s'est bien passé ?»«
Oui. Tom nous a ramenés de Port-Romance en longeant la côte et nous a fait remonter la route du Bec pour ne pas payer le ferry qui traverse les marais. Nous avons couché à l'auberge de Benbrook la première nuit et la suivante campé le long de la Suisse. » Grande dame hoche la tête, ses doigts s'affairent à la couture. Il y a un panier plein de vêtements près d'elle sur le rocher.
« Et les médecins ?»
La clinique était grande. Les chrétiens ont ajouté des bâtiments depuis la dernière fois que nous sommes venus à Port-Romance. Les sœurs, les infirmières, ont été très gentilles pendant les examens. Grande dame attend. Je regarde la vallée et le soleil en train de se libérer des sombres nuages. La lumière strie les sommets, jette des ombres subtiles derrière les grosses pierres basses et les sommets rocheux des collines, et fait flamboyer la bruyère. C'est le cancer, dis-je. La nouvelle souche du virus.
Le médecin de bord des marais nous l'avait appris. Quel pronostic ont-ils fait?
Je prends une chemise. Une de Trorb, mais qui appartient maintenant à son frère Lay, l'oncle de Roll. Je tire mon aiguille et du fil de mon tablier et commence à remplacer le bouton que Trorb a perdu juste avant sa dernière expédition de chasse dans le Nord. Mes joues sont brûlantes à l'idée que j'ai donné à Lay cette chemise où il manquait un bouton. Ils m'ont recommandé d'accepter la croix, dis-je.
Ils n'ont pas de traitement, avec toutes leurs machines et leurs sérums.
Il y en avait un. Mais évidemment, il nécessitait une technologie moléculaire.
La nanotech.
Oui. Et l'Église l'a banni. Les mondes plus avancés ont d'autres traitements.
Mais pas Hyperion,
dit Grande Dame. Et elle met de côté les vêtements qui étaient sur ses genoux. Oui. Je me sens très fatigué, encore un peu malade des examens et du voyage, et très calme. Mais aussi très triste. La brise m'apporte les rires de Roll et des autres petits garçons.
Et ils t'ont conseillé d'accepter leur croix,
dit Grande Dame en énonçant ce dernier mot d'un ton acerbe. Un jeune prêtre très gentil m'a parlé pendant des heures hier. Grande dame me regarde dans les yeux.
« Et vas-tu le faire, Caltrine ?»
Je lui rends son regard. « Non. »«
Tu en es sûre ?»«
Certaine. » »«
Trorb aurait pu être régénéré et serait maintenant parmi nous s'il avait accepté le cruciforme au printemps dernier, lorsque le missionnaire l'a supplié de le faire. »
« Pas pas mon Trorb, dis-je en me détournant. Pour la première fois depuis que les douleurs ont commencé, il y a 7 semaines, je pleure. Pas pour moi, je le sais. Mais en évoquant Trorb, souriant et nous saluant, en cette dernière aube où il est parti avec ses frères chasser l'Ibsen des Salins près de la côte. Grande dame me prend la main.
Tu penses à Roll?
Non, pas encore. Dans 2 semaines, je ne penserai qu'à lui.
Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu sais,
dit doucement grande dame.
Je sais encore élever un enfant. J'ai toujours des histoires à raconter et des savoir-faire à transmettre. Et je lui parlerai de toi.
Il sera encore si petit quand... Je m'arrête. Grande dame me serre la main.
Un jeune enfant se souvient mieux. Quand on vieillit, on s'affaiblit. Ce sont les souvenirs d'enfance qui reviennent le plus clairement.
Le coucher de soleil est brillant, mais brouillé par mes larmes. Je tourne la tête pour que grande dame ne les voie pas. Je ne veux pas qu'il se rappelle de moi seulement lorsqu'il sera vieux. Je veux le voir, tous les jours. Le voir jouer et grandir.
Te souviens-tu de la strophe de Ryokan que je t'ai apprise quand tu n'étais guère plus âgé que Roll?
Me demande grande dame. Je ne peux m'empêcher de rire. Tu m'as appris des 12 de strophes de Ryokan, grande dame.
Celle-là,
dit la vieille femme.
Comme je suis heureuse d'aller main dans la main avec les enfants, récolter les légumes verts dans les champs au printemps.
Grande dame a fermé les yeux. Je vois comme le parchemin de ses paupières est mince.
Tu aimais cette strophe, Kaltri?
Je l'aime toujours.
Et te dit-elle quelque chose sur le besoin de récolter les légumes verts la semaine prochaine, ou l'année prochaine, ou dans 10 ans, afin d'être heureuse aujourd'hui?
Je souris. Cela t'est facile à dire, vieille femme. Ma voix douce et pleine d'affection tempère l'insolence des paroles. Tu as récolté des légumes verts pendant 70 printemps, et tu projettes de le faire pendant encore autant de temps.
Pas autant, je pense.
Elle me serre la main une dernière fois et la lâche.
Mais l'important, c'est de marcher avec les enfants aujourd'hui, dans la lumière de printemps de 7 soirées. Et de récolter vite les légumes pour le dîner. Je vais faire ton plat favori.
Je frappe dans mes mains. La soupe du vent du Nord? Mais les poireaux ne sont pas assez grands.
Ils le sont dans les prés du Sud où j'ai envoyé Lee et ses garçons les ramasser, et ils en ont rapporté un plein pot. Va maintenant, chercher les légumes qu'il faut y ajouter. Prends ton enfant et reviens avant la nuit.
Je t'aime, grande dame.
Je le sais. Et Roll t'aime, petite. Et je veillerai à ce que le cercle ne soit pas brisé. Cours maintenant.
Je me réveille en train de tomber. Je ne dormais pas. Les feuilles de l'arbre étoile ont ombragé les nacelles pour la nuit, et du côté hors système, les étoiles resplendissent. Les voix ne diminuent pas. Les images ne s'effacent pas. Ce n'est pas comme de rêver, c'est un maelstrom d'images et de voix, un chœur de milliers de voix qui clament pour être entendues. Jusqu'à cet instant, je ne me suis jamais souvenu de la voix de ma mère. Quand le rabbin Schumann a crié en polonais de l'ancienne terre et a prié en yiddish, j'ai compris non seulement sa voix, mais ses pensées. Je deviens fou.
Non, mon chéri, tu ne deviens pas fou,
chuchote aîné. Elle flotte avec moi contre la paroi chaude de la nacelle, me tient dans ses bras. Le chronomètre de mon persoc dit que la période de sommeil de cette partie de la biosphère de l'arbre étoile est presque terminée, que les feuilles vont se déplacer pour laisser passer la lumière du soleil dans l'heure qui vient. Les voix chuchotent et murmurent et discutent et sanglotent. Les images volaient au fond de mon cerveau, comme les couleurs après qu'on a reçu un énorme coup sur la tête. Je m'aperçois que je me tiens tout raide, les poings fermés, les dents serrées, les veines du cou saillantes, comme dans un terrible vent ou un accès de douleur.
« Non, non !»
dit aîné. Ses douces mains caressent mes joues et mes tempes. La sueur flotte autour de moi comme un nimbus aigre.
« Non, Roll, détends-toi. Tu es si sensible à cela, mon chéri, comme je m'en doutais. Détends-toi. et laisse les voix se taire. Tu peux les contrôler. Tu peux les écouter quand tu le désires. Les faire taire quand tu le veux.
Mais elles ne partent jamais, dis-je.
Non, jamais loin,
murmure Aînée. Les anges extraux flottent dans la lumière du soleil, au-delà de la barrière de feuilles, du côté du soleil.
Et tu as écouté cela depuis que tu es toute petite ? Depuis avant ma naissance,
dit mon aimée.
Mon Dieu ! Mon Dieu !
M'exclamai-je en mettant mes poings sur mes yeux.
Mon Dieu ! Je m'appelle Amnié Machen Alata et j'ai 11 ans lorsque la Pax arrive dans mon village de Komriad. Il est loin des cités, loin des rares autoroutes et des voies aériennes, loin même des voies des caravanes qui s'entrecroisent dans le désert rocheux et les plaines ardentes. Depuis 2 jours, les cieux du soir ont montré les vaisseaux de la Pax brûlant comme des charbons ardents en passant de l'est à l'ouest, dans ce que mon père dit être un endroit au-dessus de l'air. Hier, la radio du village a transmis des ordres de l'imam Al-Ghazali, qui a entendu sur les lignes téléphoniques d'Omar que tous les habitants des hautes étendues et des camps de l'oasis des plaines ardentes devaient se rassembler devant leur yourte et attendre. Père est allé à la réunion des hommes dans la mosquée au mur de boue de notre village. Le reste de ma famille se tient devant la yourte. Les 30 autres familles attendent aussi. Le poète du village, Farid Uddin Attar, marche parmi nous en essayant de calmer nos inquiétudes avec ses vers, mais même les adultes sont apeurés. Mon père est revenu. Il a dit à ma mère que le moulla a décidé que nous ne pouvions pas attendre que les infidèles nous tuent. La radio du village n'a pas pu soulever la mosquée d'Al-Ghazali ou d'Omar. Père pense que la radio est cassée de nouveau. Mais le moulla croit que les infidèles ont tué tout le monde, à l'ouest des plaines ardentes. Nous entendons le bruit des coups de feu provenant des autres yourtes. Mère et ma sœur aînée veulent s'enfuir en courant, mais père leur ordonne de rester. Il y a des cris. Je surveille le ciel, attendant que les vaisseaux de la Pax infidèle réapparaissent. Quand je baisse les yeux, les miliciens du moulla encerclent notre yourte en rechargeant leurs fusils. Leurs visages sont sinistres. Père nous dit de lever les mains. « Dieu est grand, dit-il, et nous répondons « Dieu est grand ». Même moi, je sais que Islam veut dire soumission à la volonté miséricordieuse d'Allah. À la dernière seconde, j'aperçois les braises dans le ciel, les vaisseaux de la Pax qui traversent le zénith d'est en ouest, tellement haut au-dessus de nous. « Dieu est grand !» crie Père. J'entends les coups de feu. Aînée, je ne sais pas ce que ces choses signifient.
Rôle. Elles ne signifient rien.
Elles sont réelles.
Aussi réelles que les souvenirs peuvent l'être, mon amour.
Mais comment ? Je peux entendre les voix, tant de voix. Aussitôt que j'en touche une avec mon esprit, elles sont plus fortes que mes propres souvenirs, plus claires.
Ce sont néanmoins des souvenirs, mon amour.
Des morts ?
Oui.
Apprendre leur langage ?
Nous devons apprendre leur langage, Roll. Leur vraie langue. L'anglais, le yiddish, le polonais, le parsi, le tamal, le grec, le mandarin. Mais aussi leur cœur. L'âme de leur mémoire.
Est-ce des fantômes qui parlent, aîné ?
Ce ne sont pas des fantômes, mon amour. La mort est définitive.
L'âme est cette combinaison ineffable de la mémoire et de la personnalité qui nous soutient pendant toute la vie.
Quand la vie s'en va, l'âme aussi meurt,
sauf dans les souvenirs que nous laissons à ceux qui nous ont aimés.
Et ces souvenirs
résonnent dans le vide qui lit.
Comment ? Tous ces milliards de vies,
de milliers de races pendant des milliards d'années, mon amour. Certains des souvenirs de ta mère sont là, et ceux de la mienne, mais aussi les impressions de vie des êtres terriblement loin de nous dans l'espace et le temps.
Puis-je toucher cela aussi, aîné ?
Peut-être, avec du temps et de la pratique. Cela m'a pris des années pour les comprendre. Même les impressions sensorielles des formes de vie qui ont évolué d'une manière très différente sont difficiles à comprendre, beaucoup moins que leurs pensées, leurs souvenirs et leurs émotions.
Mais tu l'as fait ?
Je l'ai tenté.
Des formes de vie étrangères comme les Sénéchés à Luit ou les Akerat à Hélice ?
Bien plus étrangères que cela, Roll.
Sur Hébron, les Sénéchés ont vécu cachés pendant des générations à proximité des colonies humaines. Et ils sont doués d'empathie. Les émotions étaient leur première langue. Les Akeratailis sont tout à fait différents de nous, mais pas tant que les entités du centre auxquelles mon père a rendu visite.
Mon cœur souffre, ma grande. Peux-tu m'aider à faire cesser ces voix et ces images?
Je peux t'aider à les apaiser, Rol. Elles ne cesseront jamais tant que nous vivrons. C'est la bénédiction et le fardeau de la communion à mon sang. Mais avant que je te montre comment les calmer, écoute encore quelques souvenirs de plus. C'est presque l'heure où les feuilles tournent et où le soleil se lève.
Je m'appelais Lénard Hoyt. J'étais prêtre. Mais maintenant, je suis le pape Urbain XVI et je célèbre la messe de la résurrection pour le cardinal John Domenico Mustafa dans la basilique Saint-Pierre devant plus de 500 personnages importants du Vatican. Debout devant l'autel, les mains étendues, je lis la prière des fidèles. Invoquons avec confiance Dieu, notre Père Tout-Puissant, qui a relevé son Fils, le Christ, d'entre les morts pour le salut de tous. Le cardinal Lourdus Samy, qui pour cette messe fait office de diacre, entonne.
Fais qu'il puisse revenir dans la compagnie éternelle des fidèles, ce cardinal décédé, John Domenico Mustafa, qui un jour reçut par le baptême la graine de la vie éternelle. Nous t'en prions, Seigneur. Fais que celui qui durant sa vie exerça des fonctions épiscopales dans l'Église et dans le Saint-Office puisse de nouveau servir Dieu dans sa vie renouvelée. Nous t'en prions, Seigneur. Apporte aux âmes de nos frères, de nos sœurs, de nos parents et de nos bienfaiteurs la récompense de leurs travaux. Nous t'en prions, Seigneur. Accueille à la lumière de ta face tous ceux qui dorment dans l'espoir de ressusciter, et accorde-leur cette résurrection afin qu'ils puissent mieux te servir. Nous t'en prions, Seigneur. Assiste et console avec miséricorde nos frères et sœurs qui souffrent l'épreuve de l'assaut des impies et de la moquerie des déchus. Nous t'en prions, Seigneur. Puisses-tu un jour appeler dans ton glorieux royaume tous ceux rassemblés ici dans la foi et la dévotion? Accorde-nous cette même bénédiction de la résurrection temporelle par le Christ. Nous t'en prions, Seigneur.
Maintenant, tandis que le cœur chante l'antienne de l'offertoire et que l'assemblée s'agenouille dans le silence plein d'écho, en attendant la Sainte Eucharistie, je me retourne vers l'autel et dis: Reçois, Seigneur, ces dons que nous t'offrons de la part de ton serviteur, John Domenico Mustafa, cardinal. Tu lui as donné la récompense de la prêtrise en ce monde. Puisse-t-il se retrouver brièvement en compagnie de tes saints dans le royaume des cieux et revenir parmi nous par l'entreprise de ton sacrement de résurrection, par le Christ, notre Seigneur. L'assemblée répond à l'unisson. Amen. Je m'avance jusqu'au cercueil du cardinal Mustafa dans la crèche de résurrection près de l'autel et l'asperge d'eau bénite en priant. Père, Dieu tout-puissant et éternel, nous avons raison de te remercier toujours et partout par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui qui s'est relevé d'entre les morts, germe notre espoir de la résurrection. La tristesse de la mort fait place à la brillante promesse de la vie éternelle. Seigneur, pour ton peuple fidèle, la vie n'est pas terminée mais renouvelée. Quand le corps de notre demeure terrestre repose dans la mort, nous nous en remettons à ta miséricorde et à ton miracle qui la renouvelle en nous. Aussi, avec les cœurs des anges dans le ciel, nous proclamons ta gloire et nous nous joignons à leur hymne de louange. Les grandes orgues de la basilique retentissent pendant que le chœur se met à chanter le Sanctus. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Après la communion, lorsque la messe prend fin et que l'assemblée se disperse, je retourne lentement à la sacristie. Je suis triste et mon cœur me fait mal, littéralement. La maladie a repris, obstruant mes artères et rendant chaque pas, chaque mot douloureux. Je pense, il ne faut pas que je le dise à Lourdes Amie. Le cardinal apparaît tandis que les acolytes et les enfants de cœur m'aident à ôter mes vêtements sacerdotaux.
Nous avons reçu un courrier de Ron Gédéon, votre sainteté.
De quel front?
Pas de la flotte, Saint-Père,
dit le cardinal en regardant de travers le message copie-papier qu'il tient dans ses mains grasses.
D'où alors?
Fis-je en tendant la main avec impatience. Le message est écrit sur un fin vélin. Je viens sur Passem, au Vatican.
Aîné.
Je regarde mon secrétaire d'État.
Pouvez-vous arrêter la flotte, Simon Agostino?
Ses bajoux semblent frissonner.
Non, votre sainteté. Ils ont effectué le saut il y a plus de 24 heures. Ils doivent avoir presque terminé leur programme de résurrection accélérée et vont passer à l'attaque dans quelques instants. Nous ne pouvons pas équiper un drone et l'envoyer à temps pour les rappeler.
Je m'aperçois que ma main tremble. Je rends le message au cardinal Lourdes Amie.
Appelez Maruzine et les autres commandants de la flotte, dis-je. Demandez-leur de ramener l'ensemble de l'unité de guerre qu'il leur reste dans le système de Passem. Immédiatement.
Mais votre sainteté,
fit Lourdes Amie d'une voix pressante.
Il y a tant de corps expéditionnaires importants en route en ce moment. Immédiatement.
Lourdes Amie s'incline.
Immédiatement, votre sainteté.
Lorsque je me détourne, la douleur dans la poitrine et ma difficulté à respirer sont comme des avertissements de Dieu que le temps me manque.
Aîné, le pape, calme-toi mon amour, je suis là. J'étais avec le pape, Lennart Hoyt.
Mais il n'est pas mort, hein?
Tu apprends aussi le langage des vivants, Roll. Incroyable que ton premier contact avec les souvenirs d'une personne vivante s'effectue avec lui.
Je pense...
On n'a pas le temps, aîné. Pas le temps. Son cardinal, Lourdes Amie, lui a apporté ton message.
Le pape a essayé de rappeler la flotte, mais Lourdes Amie a dit qu'il était trop tard. Qu'ils ont effectué leur saut il y a 24 heures et qu'ils vont attaquer d'une seconde à l'autre.
Ce pourrait être ici, aîné. C'est peut-être la flotte qui s'est massée à la caille 9352.
Non !
Le cri d'aîné me tire de la cacophonie d'images et de voix, de souvenirs et de couches sensorielles. Sans les bannir totalement, il les transforme en quelque chose qui n'est pas sans ressembler à une forte musique dans une pièce adjacente. Aîné a appelé son père Soc sur l'étagère et convoque à la fois notre vaisseau et Navson Amnim. Tout en enfilant mes vêtements, j'essaie de me concentrer sur mon ami, sur cet instant, mais comme quelqu'un qui émerge d'un rêve réaliste, car le murmure des voix et d'autres souvenirs sont encore avec moi. Le père capitaine Federico de Soya est agenouillé, en prière, dans sa nacelle cabine, à bord du vaisseau arbre Yggdrasil. Mais de Soya ne pense plus à lui-même comme à un père capitaine, seulement comme à un père. Et il n'est même pas certain d'avoir encore ce titre, tandis qu'il s'agenouille et prie. Prie comme il l'a fait pendant des heures cette nuit, et pendant de plus longues heures encore de jour et de nuit, depuis que la communion au sang d'aîné a ôté le cruciforme de sa poitrine et de son corps. Le père de Soya prie pour un pardon dont il sait, sans le moindre doute, qu'il est indigne. Il prie pour être pardonné de ses années de capitaine de la flotte de la Pax, de ses nombreuses batailles, des vies qu'il a prises, des belles œuvres de l'homme et de Dieu qu'il a détruites. Le père Federico de Soya s'agenouille dans le silence d'un sixième de G de sa nacelle et demande à son Seigneur et Sauveur, le Dieu de miséricorde auquel il a appris à croire et dont il doute maintenant, de lui pardonner, non pour son propre bien, mais pour que ses pensées et ses actions, dans les mois et les années à venir, ou dans les heures qui viennent si sa vie doit être abrégée, puissent mieux servir son Seigneur. Je m'arrache à ce contact avec le brusque dégoût de quelqu'un s'apercevant qu'il devient voyeur. Je comprends immédiatement que si aîné a connu ce langage des vivants pendant des années, toute sa vie même, elle a presque certainement dépensé plus d'énergie à le rejeter, à éviter ces intrusions dans la vie des autres personnes, qu'à le maîtriser. Aînée a commandé une ouverture dans la paroi de la nacelle et sorti le persoc des touffes organiques du balcon. Je viens la rejoindre en flottant sur la douce poussée d'un dixième de jet du champ de confinement qui règne ici. Plusieurs visages flottent au-dessus de la console du persoc, ceux de Etmastine, Kate Rostine et Nafson Amnim, mais tous détournent les yeux des lecteurs visuels et regardent au loin, comme le fait Aînée. Il me faut une seconde pour apercevoir ce qu'elle voit. Des raies de feu traversent l'arbre étoile où s'épanouissent de belles rosettes de flammes orangées rouges. Un instant, je pense que c'est seulement le lever du soleil qui retourne les feuilles le long de la concavité de la biosphère et que les calmars, les anges et les comètes arroseuses reflètent la lumière comme nous l'avons fait, Aînée et moi, quelques heures plus tôt, quand nous voguions sur la matrice de l'héliosphère. Mais alors je comprends enfin ce que je vois. Les vaisseaux de la Pax traversent l'arbre étoile en une centaine d'endroits, leur queue de fusion tranchant les branches et le tronc comme de froids couteaux brillants. Les feuilles et les débris, explosant à des centaines de milliers de kilomètres de nous, envoient des secousses de tremblements de terre dans la branche, la nacelle et le balcon sur lequel nous sommes. Confusion brillante. Des lances d'énergie traversent l'espace, visibles aux milliards de particules d'atmosphère en train de s'échapper, de matières organiques pulvérisées, de feuilles enflammées et de sang des extros et des templiers. Les lances coupent et brûlent tout ce qu'elles touchent. La plupart des explosions s'épanouissent dehors, à quelques kilomètres seulement. Le champ de confinement tient toujours et nous plaque contre la paroi de la nacelle, qui ondule comme la chair d'une bête blessée. Le persoc d'Aînée s'éteint à l'instant même où la courbure de l'arbre étoile s'enflamme au-dessus de nous et explose dans l'espace silencieux. Nous entendons des cris, des hurlements et des rugissements. Mais je sais que dans quelques secondes, le champ de confinement va céder et qu'Aînée et moi allons être projetés dans l'espace avec les autres tonnes de débris qui passent devant nous. J'essaie de la ramener dans la nacelle qui est en train de se sceller dans une vaine tentative pour survivre.
Non, Roll, regarde!
Je regarde ce qu'elle me montre. Au-dessus de nous, puis en dessous et autour de nous, l'arbre étoile brûle et explose. Les lianes et les branches éclatent. Les anges extros sont consumés en flammes. Les calmars de 10 clics de long implosent. Les vaisseaux arbres brûlent en essayant d'appareiller.
Ils sont en train de tuer les ergues!
S'écrie Aînée par-dessus le rugissement du vent et des explosions. Je martèle la paroi de la nacelle en hurlant des ordres. La porte s'ouvre pendant une seconde, mais assez longue pour que je tire ma bien-aimée à l'intérieur. Nous n'y sommes pas à l'abri. Les bombes à plasma sont visibles au travers des parois polarisées. Aînée a tiré son sac du placard et le traîne. Je saisis le mien, fourre la gaine de mon couteau dans ma ceinture, comme s'il pouvait m'aider à combattre les assaillants.
« Il faut rejoindre Yggdrasil !»
crie Aînée. D'un coup de pied, nous nous dirigeons vers la paroi de la tige de connexion, mais la nacelle ne nous laisse pas sortir. Un rugissement traverse sa coque.
« Il y a une brèche dans la tige de connexion !»
souffle Aînée. Elle porte toujours le persoc. Je m'aperçois que c'est celui du vaisseau du consul, et demande des infos au réseau de l'arbre étoile.
Les ponts ont disparu. Il faut pourtant rejoindre le vaisseau arbre.
Je regarde à travers la paroi. Des floraisons oranges de flammes. L'Yggdrasil est à 10 clics de là. Comme les ponts suspendus et les tiges de connexion ont disparu, il pourrait aussi bien se trouver à 1000 années-lumière de nous.
Envoie le vaisseau nous chercher,
dis-je.
Le vaisseau du consul!
Aînée fait non de la tête.
Etmastine est en train de mettre l'Yggdrasil en route. Nous n'avons plus le temps de faire sortir notre vaisseau. Nous devons y être dans 3 ou 4 minutes, ou alors... Et les combinaisons peau extro? On pourrait y aller en volant.
C'est à mon tour de secouer la tête.
Elles ne sont plus là.
Quand nous les avons ôtées sur la plateforme d'atterrissage, je les ai confiées à Abétique pour qu'il les rapporte au vaisseau arbre. La nacelle tangue follement et Aînée se retourne pour regarder. La paroi d'un rouge brillant est en train de fondre. J'ouvre mon placard, je jette de côté les vêtements et le reste, j'en sors l'unique artefact superflu que je possède et le tire de son tube de cuir. Le cadeau du père capitaine de Soya. J'active les fils. Le tapis Hawking se raidit et plane en G0. Le champ EM qui entoure cette section de l'arbre étoile est encore intact.
Viens !
Je crie tandis que la paroi fond. J'entraîne ma bien-aimée sur le tapis Hawking. Nous franchissons rapidement la fissure pour nous lancer dans le vide et la folie. Chapitre 28. Les champs magnétiques de l'ergue délimité tenaient toujours, mais se brouillaient curieusement. Au lieu de voler au-dessus de la branche, large comme un boulevard, jusqu'à l'Yggdrasil, le tapis Hawking voulut se réaligner à angle droit avec elle, si bien que nos visages semblaient pointer vers le bas, tandis qu'il s'élevait, tel un ascenseur, entre des branches qui tremblaient, des ponts qui pendillaient, des tiges de connexion tranchées, des globes de flammes et des hordes d'extro sautant dans l'espace pour se battre et mourir. Du moment que nous progressions vers le vaisseau arbre, je laissais le tapis Hawking faire ce qu'il voulait. Il restait encore des bulles d'atmosphère du champ de confinement, mais la plupart des champs étaient morts avec les ergues qui les maintenaient. En dépit de leur grand nombre, l'air fuyait ou se décompressait en explosant tout le long de cette partie de l'arbre étoile. Nous n'avions pas de combinaison. Ce dont je m'étais souvenu au dernier moment dans la nacelle, c'était que l'ancien tapis Hawking possédait son propre champ à faible puissance, capable de retenir les passagers ou l'air. Cela n'avait rien d'un équipement de pressurisation à long terme, mais nous l'avions utilisé 9 ans auparavant sur la planète jungle dépourvue de nom, quand nous avions volé trop haut pour pouvoir respirer, et j'espérais que les systèmes étaient toujours en état de fonctionner. Oui, ils marchaient. Du moins à leur manière. Dès que nous fûmes sortis de la nacelle, nous élevant dans le chaos comme une paravoile, le champ à faible puissance du tapis Hawking se mit en marche. Je pouvais presque sentir l'air ténu s'échapper, mais je me dis qu'il durerait bien le temps qu'il faudrait pour arriver à l'Yggdrasil. Nous faillîmes ne jamais l'atteindre. Ce n'était pas la première bataille spatiale que je voyais. Aîné et moi, sur la plateforme haute du temple suspendu dans les airs, il n'y avait pas tant de jours standards, pas tant d'éternités. Nous avions regardé le spectacle son et lumière donné dans l'espace cislunaire par le corps expéditionnaire en train de détruire le vaisseau du père de Soya. Mais c'était la première fois où quelqu'un essayait de me tuer. Aux endroits où il restait de l'air, le bruit était assourdissant. Explosion, implosion, bris de troncs et de tiges de connexion, branches en train de se rompre et calmars mourants, ululement des alarmes, bredouillement et cris aigus des persocs et autres moyens de transmission. Là où régnait le vide, le silence semblait encore plus effrayant. Corps des extros et des templiers explosant sans bruit dans l'espace, femmes et enfants, guerriers incapables d'atteindre leurs armes ou leurs postes de combat, prêtres du muir en robe, dégringolant vers le soleil, drapés dans l'ultime outrage d'une mort violente, flammes sans crépitement, cris silencieux, cyclone que ne précédait aucune ruée de vent. Aîné restait penché sur l'ancien persoc de Syrie, tandis que nous nous élevions dans le maelstrom. Je vis Systench Coredwell crier sur le minuscule affichage holo, au-dessus de la disclée, puis Kent Quinkent et Sian Quintana Kahan parlaient d'un ton pressant. J'étais trop occupé à guider le tapis Hawking pour écouter leurs propos désespérés. Je ne voyais plus les traînées de fusion des archanges de la Pax, seulement leurs lances qui traversaient les nuages de gaz et les champs de débris pour découper l'arbre étoile, tels des scalpels dans de la chair vivante. Les grands troncs et les branches sinueuses saignaient vraiment. Leurs sèves et leurs autres fluides vitaux se mêlaient aux kilomètres de lianes en fibre optique et au sang des extros qui explosaient dans l'espace ou bouillonnaient dans le vide. Un calmar de 10 kilomètres fut coupé en deux, puis tranché de nouveau tandis que je le regardais. Ses fragiles tentacules se convulsèrent en une danse destructrice jusqu'à la fin de son agonie. Des anges extros s'envolaient par milliers et mouraient par milliers. Un vaisseau arbre tenta d'appareiller et fut détruit par une lance en quelques secondes. Sa riche atmosphère d'oxygène s'enflamma dans le champ de confinement. Son équipage mourut lorsque le globe d'énergie se remplit de fumée tourbillonnante.
« Pas l'Yggdrasil !»
s'écria Aîné. Je hochai la tête. Le vaisseau arbre mourant venait de la sphère nord, mais l'Yggdrasil devait être proche maintenant, à un clic maximum au-dessus de nous, le long de la branche qui vibrait et se brisait. À moins que je n'aie pris le mauvais tournant, ou à moins qu'il n'ait déjà été détruit, ou à moins qu'il ne soit parti sans nous.
« J'ai parlé à Etmastin !»
cria Aîné. Nous étions dans un globe dont l'air s'échappait et le tumulte était épouvantable.
« Seuls 300 sur les 1000 attendus sont à bord. Bon !»
dis-je. Je ne comprenais pas de quoi il parlait. Mille quoi ? Pas le temps de demander. J'entrevis le vert plus sombre d'un vaisseau arbre, à un clic environ au-dessus de nous, à gauche, sur l'hélice d'une autre branche, et lançai le tapis Hawking dans cette direction. Si ce n'était pas l'Yggdrasil, nous serions obligés de nous y abriter tout de même. Le champ EM tomba en panne. Le tapis Hawking s'élança une dernière fois, puis commença à dégringoler dans les ténèbres, entre les branches brisées, à 1 kilomètre environ de la plus proche tige de connexion en flammes. Loin en dessous et derrière nous, je pouvais voir le bouquet des nacelles d'ambiance dans lesquelles nous étions venus. Elles étaient déchirées, l'air et l'écorce en échappaient, leurs tiges et leurs branches de liaison se tordaient en réaction newtonienne aveugle. « C'est fichu !» dis-je à voix basse parce qu'il n'y avait plus d'air ni de bruit à l'extérieur de notre bulle d'énergie défaillante. Le tapis Hawking avait été conçu 7 siècles plus tôt par un homme qui voulait se gagner l'affection d'une nièce adolescente, et non pour garder dans l'espace extérieur ce qu'il transportait. On a essayé, ma grande. Je m'éloignai des fils de vol et mis mon bras autour d'elle.
« Non !»
dit Aînée, rejetant non mon étreinte, mais la sentence de mort. Elle me saisit par le bras si violemment que ses doigts s'enfoncèrent dans la chair de mon biceps.
« Non ! Non !»
dit-elle en tapant sur la disque du persoc. Le visage de Hetmastine apparut sur le champ d'étoiles culbutant.
« Oui !» dit-il. « Je vous vois !»
L'immense vaisseau-arbre était maintenant suspendu à 1000 mètres au-dessus de nous, unique grand plafond de branches et de feuilles vertes derrière le champ de confinement violet vacillant dont la masse nous séparait lentement de l'autre arbre étoile en train de brûler. Une violente saccade se produisit soudain et durant une seconde, je fus certain qu'une lance des archanges nous avait trouvés.
« Les ergues nous entraînent à l'intérieur !»
dit Aînée, toujours agrippée à mon bras.
« Les ergues ?»
Je croyais qu'un vaisseau-arbre n'avait qu'un ergue à bord pour manœuvrer la propulsion et les champs.
« Généralement, parfois ils en ont deux s'il s'agit d'un voyage extraordinaire. Dans la couche extérieure d'une étoile, par exemple, ou à travers l'onde de choc de l'héliosphère d'un système binaire.
« Alors, il y en a deux à bord de l'Yggdrasil ?» demandai-je en regardant l'arbre grossir et remplir le ciel. Les explosions de plasma s'épanouissaient derrière nous.
« Non !»
dit Aînée.
« 27 !»
Le champ étendu nous attira à l'intérieur, se réarrangea et redevint le bas. Il nous déposa sur le pont supérieur, juste sous la plateforme passerelle, près de la cime du vaisseau-arbre. Avant même que j'aie pu taper sur les fils de vol pour dégonfler notre piteux champ de confinement, Aînée ramassait son persoc et son sac à dos et courait vers l'escalier. Je roulais soigneusement le tapis Hawking, le fourrais dans son étui en cuir, jetais le tube sur mon dos et m'élançais pour la rattraper. Seul Hetmastine, le capitaine du vaisseau-arbre templier, et quelques-uns de ses lieutenants occupaient la passerelle de la cime, mais en dessous, sur les plateformes et les escaliers, il y avait plein de gens que je connaissais et d'autres que je ne connaissais pas. Rachel, Théo, Abétic, le père de Soya, le sergent Grégorius, l'homo d'Ondrub et des douzaines d'autres réfugiés familiers de Tien Shan, mais aussi des humains non-extro, non-templiers, que je n'avais jamais vus.
Des réfugiés fuyant une centaine de mondes de la Pax, recueillis par le père capitaine de Soya à bord du Raphaël, durant ces dernières années,
expliqua Aînée.
Nous attendions l'arrivée de plusieurs centaines d'autres aujourd'hui, avant le départ, mais il est trop tard maintenant.
Je la suivis jusqu'au niveau de la passerelle. Hetmastine se tenait au lieu géométrique d'un cercle de consoles de commande organique, affichage nourri par les nerfs en fibre optique qui couraient dans tout le vaisseau, affichage holo de bord, de la poupe et de l'avant du vaisseau-arbre, connexion de communicateurs qui le mettaient en contact avec les templiers chargés des ergues dans le noyau de confinement de la singularité, avec les racines de propulsion, ainsi que le simulacre holo central du vaisseau-arbre lui-même que le capitaine pouvait toucher de ses longs doigts, pour demander des traitements interactifs ou changer de direction. Le Templier leva les yeux lorsqu'Aînée traversa rapidement le pont sacré pour le rejoindre. Son visage, modelé sur la souche asiatique de l'ancienne Terre, était calme sous son capuchon.
« Je suis content de ne pas vous avoir laissé derrière nous, vous qui enseignez »,
lança-t-il avec une pointe d'ironie.
« Où souhaitez-vous aller ?»«
Hors système !»
fit Aînée sans hésitation.
Ils vont nous tirer dessus, bien entendu. La puissance de feu de la flotte de la Pax est redoutable.
Aînée se contenta de hocher la tête. je vis le simulacre du vaisseau arbre tourner lentement et lever les yeux pour constater que le champ d'étoiles pivotait autour de nous. Nous n'avions parcouru que quelques centaines de kilomètres dans le système et revenions maintenant vers la surface intérieure délabrée de la biosphère de l'arbre étoile. Là où s'étaient trouvées nos nacelles d'ambiance et de réunion, je ne vis que des trous déchiquetés dans les branches tressées. Les milliers de clics carrés de cette région n'étaient plus que blessures béantes et branches dénudées. L'Yggdrasil se déplaça lentement entre les milliards de feuilles en train de dégringoler, celles qui étaient encore dans l'atmosphère du champ de confinement brûlaient avec éclat, et leurs cendres badigeonnaient de gris le périmètre du champ, afin de revenir vers la muraille de la sphère et la traverser avec précaution. Quand nous émergeâmes de l'autre côté et prîmes de la vitesse, car la propulsion à fusion, contrôlée par les ergues, s'enflamma, nous vîmes mieux la bataille. L'espace était, en cet endroit, une myriade de minuscules points de lumière clignotants, d'étincelles embrasées apparaissant lorsque les champs de confinement défensifs s'enflammaient sous l'attaque des lances, d'innombrables explosions à plasma ou thermonucléaires, de traînées de propulsion des missiles, des armes hypercinétiques, des petits véhicules d'attaque et des archanges. La surface extérieure convexe de l'arbre étoile ressemblait à une planète volcanique fibreuse en éruption, qui projetait des flammes et des geysers de débris. Des comètes d'irrigation et des astéroïdes bergers, déviés brutalement de leur trajectoire parfaite par les explosions des armes de la Pax, se frayaient un passage dans l'arbre étoile comme des boulets de canon traversant du petit bois à brûler. Etmastine demanda des holotactiques et nous regardâmes avec de grands yeux l'image totale de la biosphère, grêlée de 10 000 incendies, de nombreuses conflagrations individuelles grandes comme mon monde natal d'Hyperion, et de 100 000 déchirures visibles dans ce tissu dont le façonnage avait pris presque 1 000 ans. Des milliers d'objets propulsés étaient relevés par les radars de profondeur et les senseurs sur longue distance, mais ils furent de moins en moins nombreux au fur et à mesure que les puissants archanges abattaient les statoréacteurs de reconnaissance, les vaisseaux torches, les destroyers et les vaisseaux arbre-extro avec leurs lances, à plusieurs UA de distance. Des millions d'extros adaptés à l'espace se jetaient sur les assaillants, mais mouraient comme des papillons de nuit dans un lance-flamme. L'homo d'Ondrub arriva à grands pas sur la passerelle. Il portait une combinaison peau extro et un long fusil d'assaut classe 4.
« Aîné, où allons-nous, bon dieu de merde ?»«
Nous partons, » dit ma bien-aimée. « Il le faut, l'homo. »
L'aviateur secoua la tête.
« Non, il faut rester et se battre. » Nous ne pouvons pas abandonner nos amis à ces vautours de la Pax.
L'homo, répliqua Aîné, nous ne pouvons pas sauver l'arbre étoile. Je dois partir d'ici afin de combattre la Pax.
Fuyez de nouveau s'il le faut,
dit l'homo, son beau visage tordu par la colère et la frustration. Il modela le capuchon de la combinaison peau sur sa tête.
Moi, je vais rester et me battre.
Ils vous tueront, mon ami,
le supplia Aîné.
Vous ne pouvez pas lutter contre des astronefs de classe archange.
Regardez-moi,
fit l'homo. La combinaison argentée couvrait maintenant tout sauf son visage. Il me serra la main.
Bonne chance, Roll.
À vous aussi,
dis-je, la gorge serrée. Mon visage s'empourpra autant de la honte que j'éprouvais à m'enfuir que d'être obligé de dire adieu à cet homme courageux. Aîné toucha le puissant bras argenté.
L'homo, vous pouvez combattre plus efficacement en nous accompagnant.
L'homo d'Ondrub fit non de la tête et baissa le capuchon fluide. Les émetteurs audio parlèrent à sa place d'une voix métallique.
Bonne chance à vous, aîné. Puisse Dieu et Bouddha vous venir en aide. Puisse Dieu et Bouddha nous protéger tous.
Il s'avança au bord de la plateforme et se retourna pour regarder Etmastine. Le Templier hocha la tête, toucha le simulacre de contrôle près de la cime de l'arbre et marmotta dans l'un des fils fibres. Je sentis la gravité diminuer. Le champ extérieur miroita et changea. L'homo fut soulevé, retourné et catapulté dans l'espace au-delà de nos branches, de l'air et des lumières. Je vis ses ailes argentées se déployer, la lumière les remplit, et il se joignit à une douzaine d'autres anges extro portant leurs pitoyables armes et chevauchant la lumière du soleil vers l'archange le plus proche. D'autres étaient montés sur la passerelle maintenant. Rachel, Théo, la Dorje Famo, le père de Soya et son sergent, Abétique, le Dalai Lama, mais tous se tenaient à l'écart, restant à distance respectueuse du capitaine templier affairé.
« Ils nous ont repérés, » dit Etmastine. « Ils tirent. »
Une explosion fit rougeoyer le champ de confinement. J'entendis le grésillement. Ce fut comme si nous étions tombés au cœur d'une étoile. Les affichages clignotaient.
« Tenu !»
dit la voix de l'arbre authentique Etmastine.
« Tenu !»
Il parlait des champs défensifs. Mais les vaisseaux de la Pax tenaient aussi, gardant sur nous le feu de leurs lances à énergie tandis que nous accélérions pour sortir du système. Sauf les holos d'affichage, il n'y avait aucun signe de notre déplacement, aucune étoile visible. Seulement l'ovoïde crépitant, sifflant, bouillonnant d'énergie destructive qui ondulait à quelques douzaines de mètres autour de nous.
« Quelle est notre route, je vous prie ?»
demanda Etmastine à Aéné. Mon amie se toucha brièvement le front comme si elle était fatiguée ou perdue.
« Juste arriver à un endroit où nous pourrons voir les étoiles. »
« Nous n'atteindrons jamais un point de translation tant que nous serons soumis à une attaque aussi sévère. »«
Je sais. Juste là où je pourrais voir les étoiles. »
Etmastine leva les yeux vers l'enfer qui se déchaînait au-dessus de nous.
« Nous ne reverrons jamais les étoiles. »«
Il le faut, »
répondit simplement Aîné. Soudain, des cris s'élevèrent. Je levai les yeux vers l'origine de cette perturbation. Il n'y avait que quelques petites plateformes au-dessus de la passerelle de pilotage, de minuscules structures ressemblant au nid de pie d'un bateau de pirates d'holodrame ou à l'arbre d'habitation que j'avais vu un jour dans les plaines marécageuses d'Hyperion, et c'était sur l'un d'eux que se profilait la silhouette. Les clones de l'équipage criaient et la montraient du doigt. Etmastine regarda la minuscule plateforme à 15 mètres au-dessus de nous et se tourna vers Aîné.
« Le seigneur de la douleur voyage avec nous. »
Je vis les couleurs de l'enfer qui se déchaînaient au-delà du champ de confinement se réfléchir sur la carapace du Gritch.
« Je croyais qu'il était mort sur Tien Shan, » dis-je.
Aîné semblait plus épuisé que je ne l'avais jamais vu.
« Cette chose se déplace dans le temps plus facilement que nous dans l'espace, Roll. Il est peut-être mort sur Tien Shan. » Il peut mourir dans un millier d'années au cours d'un combat avec le colonel Kassad. Peut-être ne peut-il pas mourir. Nous ne le saurons jamais. »
Comme si prononcer son nom l'avait évoqué, le colonel Fedman Kassad gravit l'escalier menant à la passerelle. Il avait revêtu l'archaïque tenue de combat de l'hégémonie et portait le fusil d'assaut que j'avais vu un jour dans l'armurerie du vaisseau du consul. Il regardait fixement le Gritch, en homme possédé.
« Puis-je monter là-haut ? »
demanda Kassad au capitaine Templier. Toujours absorbé par ses ordres et les affichages du monitorage, Etmastine montra du doigt des enfléchures et des échelles de cordes qui s'élevaient jusqu'à la plus haute plateforme.
« Pas de coup de feu sur ce vaisseau-arbre !»
cria Etmastine au colonel. Kassad hocha la tête et se mit à grimper. Nous reportâmes tous notre attention sur les affichages du simulacre. Au moins trois archanges, situés à moins d'un million de clics, dirigeaient une partie de leur feu sur nous. Notre bizarre refus de mourir parut augmenter leur colère et les lances revinrent, traversèrent les 4 à 10 secondes lumière et explosèrent sur le champ de confinement au-dessus de nous. L'un de ces vaisseaux était sur le point de passer de l'autre côté de l'arbre étoile en flammes, mais les deux autres décéléraient toujours dans le système et se dirigeaient vers nous avec leur clair champ de feu.
« Missiles lancés contre nous !»
informa la voix d'un des lieutenants templiers du capitaine, d'un ton pas plus excité que celui avec lequel j'aurais annoncé que le dîner était prêt.
« 2, 4, 9. Vitesse inférieure à celle de la lumière. Probablement des ogives à plasma. »«
Pouvons-nous y survivre ?»
demanda Théo. Rachel s'était approchée pour regarder le colonel grimper vers le Gritch. Etmastine était trop occupée pour répondre. Aussi Aîné dit
« Nous l'ignorons. Cela dépend des délimiteurs, des ergues. »
60 secondes avant l'impact,
annonça le même lieutenant templier sur le même ton monotone. Etmastine toucha un bâton de commande. Sa voix semblait normale, mais je me rendis compte qu'elle était amplifiée pour retentir dans tout le vaisseau arbre d'un clic de long.
Que tout le monde, je vous prie, se protège les yeux et évite de regarder le champ. Les délimiteurs vont polariser l'éclair autant qu'ils le pourront, mais je vous en prie, ne levez pas les yeux. Que la paix du muir soit avec vous. »
Je regardais Aîné. « Ma grande, est-ce que ce vaisseau arbre a des armes ?»«
Non. »
Ses yeux semblaient aussi là que sa voix. « Donc nous n'allons pas combattre, juste fuir. »
« Oui, Roll. »
Je grinçais des dents. « Alors je suis d'accord avec l'Homo, dis-je.
Nous fuyons beaucoup trop. Il est temps d'aider nos amis d'ici. Il est temps de... »
Au moins trois des missiles explosèrent. Plus tard, je me souvins d'une lumière si aveuglante que je pus voir le crâne et les vertèbres d'Aîné au travers de sa peau et de sa chair. Mais ce doit être impossible. Nous eûmes l'impression de tomber, l'impression que la carène tombait hors de tout. Puis le champ d'un sixième de jet fut restauré. Un grondement subsonique me fit douloureusement vibrer les dents et les os. Je clignai des yeux sous l'effet d'images rétiniennes rémanentes. Le visage d'Aîné était toujours devant moi, ses joues empourprées et brillantes de sueur, ses cheveux ramenés en arrière par une bandelette hâtivement attachée, ses yeux fatigués mais infiniment vivants, ses avant-bras nus brunis par le soleil, et dans un grand élan de sentimentalité, je pensais que ce ne serait pas impossible de mourir comme cela, avec le visage d'Aîné gravé dans mon âme et dans ma mémoire. Deux autres ogives à plasma ébranlèrent le vaisseau arbre. Puis quatre de plus.
« Tenu, » dit le lieutenant Etmastin. « Tous les champs tiennent. »«
L'Homo et Roll ont raison, aîné, »
dit la Dorgée Famo, s'avançant avec une élégance royale dans sa simple robe de coton.
« Vous avez fui la Pax pendant des années. Il est temps de la combattre, temps pour nous tous de la combattre. »
Je regardais fixement la femme âgée avec une intensité qui frôlait la grossièreté. Je venais de m'apercevoir qu'il y avait une aura autour d'elle. Non, mauvais mot, trop mystique. J'avais l'impression qu'une couleur émanait d'elle, un carmin foncé aussi fort que la personnalité de la lait du tonnerre. Et je pris conscience aussi que j'avais remarqué cela autour de tous ceux qui étaient sur la plateforme ce soir. Le bleu brillant du courage de l'Homo, la confiance dorée de l'autorité de Etmastin, le violet miroitant du choc éprouvé par le colonel Kassad en voyant le Gritch, et je me demandais si c'était un artefact de l'apprentissage du langage des vivants. Peut-être était-ce une conséquence de la surcharge de lumière provenant des explosions de plasma. Quoi que ce fût, ces couleurs étaient réelles. Je n'avais pas d'hallucination et ma vision n'était pas trouble, mais je savais aussi que c'était mon esprit qui établissait ces liens. Ces aperçus codés du véritable esprit de la personne, à un niveau de vision différent et supérieur à la vue. Et je savais que les couleurs entourant Aîné couvraient le spectre et le dépassaient. C'était une lueur si envahissante qu'elle remplissait le vaisseau arbre aussi sûrement que les explosions de plasma emplissaient le monde extérieur. Le père de Soya prit la parole.
« Non, madame, »
dit-il à la Dorgée Famo d'une voix douce pleine de respect.
L'Homo et Roll ne sont pas dans le vrai. En dépit de notre colère et de notre désir de rendre les coups, c'est Aîné qui a raison. L'Homo peut apprendre, s'il survit, ce que nous apprendrons tous si nous survivons. Qu'après la communion avec Aîné, nous partageons le pain de ceux qui nous attaquent. Nous le partageons vraiment, littéralement, physiquement. Parce que nous avons appris le langage des vivants. »
La Dorgée Famo baissa les yeux sur le prêtre plus petit.
« Je sais que c'est vrai, chrétien. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas rendre les coups quand les autres nous frappent. »
Elle leva un bras pour englober le champ de confinement qui s'éclaircissait lentement et le champ d'étoiles des traînées de fusion et des braises brûlants au-delà de celui-ci.
« Ces monstres de la Pax sont en train de détruire l'une des plus grandes œuvres de la race humaine. Nous devons les arrêter. »
« Pas maintenant, » répondit le père de Soya. « Pas en les combattant ici. Faites confiance à Aîné. »
Le géant, appelé le sergent Grégorius, s'avança dans le cercle.
Toutes les fibres de mon être, tous les instants de ma formation, toutes les cicatrices de mes années de guerre, me poussent à combattre maintenant,
gronda-t-il.
Mais j'ai toujours fait confiance à mon capitaine. Aujourd'hui, je lui fais confiance en tant que prêtre. Et s'il dit que nous devons nous fier à la jeune femme, alors c'est qu'il le faut.
Etmastine leva une main.
Tout le monde se tut. Cette discussion est une perte de temps. Comme celle qui enseigne vous l'a dit, l'Yggdrasil n'a pas d'armes et les ergues sont notre seule défense. Mais ils ne peuvent pas déphaser la propulsion à fusion tout en maintenant le champ à ce niveau. En réalité, nous n'avons plus de propulsion. Nous avons dérivé sur notre route précédente à seulement quelques minutes-lumière de notre position première. Et 5 archanges ont modifié leur course pour nous intercepter.
Le Templier se retourna pour nous faire face.
Je prie tout le monde, sauf la révérée qui enseigne et son ami Roll, de quitter la plateforme de la passerelle et d'attendre.
Nos compagnons s'en allèrent sans un mot. Je saisis le regard que lança Rachel avant de tourner le dos et levai les yeux. Le colonel Cassad était au sommet du nid de pie, debout à côté du Gritch, sa haute taille rapetissée par la sculpture de chrome, les lames et les épines de 3 mètres de haut. Ni le colonel ni la machine à tuer ne bougeaient. Ils se contentaient de se regarder, à moins d'un mètre de distance. Je reportai les yeux sur l'affichage du simulacre. Les braises des vaisseaux de la PAC se rapprochaient vite. Au-dessus de nous, le champ de confinement s'éclaircit.
Prends ma main, Roll,
dit Aîné. Je lui obéis en me souvenant de toutes les autres fois où je l'avais touché, pendant les dernières 10 années standard.
Les étoiles,
murmura-t-elle.
Regarde les étoiles et écoute-les.
Le vaisseau arbre, l'Yggdrasil, planait en orbite basse au-dessus d'une planète rouge-orangée aux calottes glaciaires blanches, où se dessinaient d'anciens volcans plus grands que ceux du plateau du Pignon sur Hyperion, et une vallée fluviale courant sur plus de 5000 kilomètres, telle une cicatrice d'appendicectomie sur le ventre de ce monde.
« C'est Mars, » dit Aîné. Le colonel Cassad va nous quitter. »
Le colonel était redescendu de son échange de regards avec le Gritch après le saut du déplacement quantique. Il n'y a pas de mots, pas de phrases pour exprimer ce que nous avions fait. À un moment, le vaisseau arbre était dans le système de la biosphère, avançant à faible vélocité, les moteurs morts, attaqué par un essaim d'archanges, et la seconde suivante, nous nous retrouvions en orbite basse et stable autour de ce monde mort du système de l'ancienne Terre.
« Comment as-tu fait ça ? »
avais-je demandé à Aîné. Je ne doutais pas une seconde que c'était elle qui nous avait déplacés ici.
« J'ai appris à entendre la musique des sphères, »
répondit-elle.
« Et puis, à faire un pas. »
Je ne cessais de la regarder fixement. Je la tenais toujours par la main. Je n'avais pas l'intention de la lâcher avant qu'elle me parle dans un langage ordinaire.
« On peut comprendre un endroit, Roll, »
dit-elle, sachant que beaucoup d'autres l'écoutaient sans doute à cet instant.
« Et quand nous le faisons, c'est comme d'en entendre la musique. Chaque monde émet un accord différent. Chaque système joue une sonate différente. Chaque endroit spécifique a une note claire et distincte. »
Je ne lui lâchais pas la main.
Et la distranslation sans portail distrance? C'est la libre translation.
Un saut quantique au vrai sens du terme. Se déplacer dans le macro-univers comme un électron se déplace dans l'infiniment micro.
Faire un pas avec l'aide du vide qui lie.
Je secouai la tête.
L'énergie. D'où tires-tu l'énergie, ma grande?
Rien ne sort de rien.
Mais tout vient de tout.
Qu'est-ce que cela veut dire, aîné? Elle dégagea ses doigts des miens, mais me toucha la joue.
Te souviens-tu de notre discussion il y a bien longtemps? Sur la physique newtonienne de l'amour.
L'amour est une émotion, ma grande,
pas une forme d'énergie.
Les deux, Roll. Vraiment.
Et c'est la seule clé qui libère la plus grande quantité d'énergie de l'univers.
Parles-tu de la religion ?
Dis-je, rendu un peu furieux par l'obscurité de ses paroles, ou ma stupidité, ou les deux.
Non. Je parle de quasars délibérément enflammés, de pulsars apprivoisés, de centres de galaxies en train d'exploser, utilisés pour leur énergie comme des turbines à vapeur. Je parle d'un projet d'ingénierie de 2,5 milliards d'années à peine commencé.
Je ne pus que la regarder avec de grands yeux. Elle fit non de la tête.
Plus tard, mon amour. Pour le moment, admets que ce distranslaté sans distrance est vraiment possible. Il n'y a jamais eu de vrai portail distrance. Jamais de porte magique qui ouvrait sur d'autres mondes. Seulement un usage pervers, accompli par le technocentre, de cette forme du second plus merveilleux don du vide.
J'aurais dû dire, quel est le premier plus merveilleux don du vide ? Mais je supposais alors que c'était l'apprentissage du langage des morts qui enregistrait les souvenirs des races sentientes. La voix de ma mère, pour être plus précis. Voilà ce que je pus répondre. Alors c'est comme cela que tu allais de monde en monde avec Rachel et Théo sans déficit de temps.
Oui.
Et que tu as transporté le vaisseau du consul du système de Tien Shan à la biosphère, sans propulsion au King.
Oui.
J'étais sur le point de dire, et voyager vers le monde, quel qu'il soit, où tu as rencontré ton amant, où vous vous êtes marié et où tu as eu un enfant. Mais les mots ne voulaient pas se former.
C'est Mars,
dit-elle ensuite, comblant le silence.
Et c'est ici que le colonel Kassad nous quitte.
Le grand guerrier vint se poster à côté d'Aîné. Rachel s'avança, se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa.
Un jour, tu t'appelleras Moneta, lui confia doucement Kassad. Et nous serons amants.
Oui,
fit Rachel en reculant. Aîné prit la main de l'homme. Il portait toujours sa tenue de combat désuète et tenait le fusil d'assaut calé sur son bras gauche replié. Souriant légèrement, le colonel leva les yeux vers la plateforme la plus élevée où le Gritch se tenait toujours, la lumière sanglante de Mars miroitant sur sa carapace.
« Roll ?»
appela Aîné.
« Tu viens aussi ?»
Je lui pris l'autre main. Le vent me soufflait du sable dans les yeux et je n'arrivais pas à respirer. Aîné me tendit un masque à osmose et je l'appliquai sur mon visage tandis qu'elle mettait le sien. Le sable et les rochers étaient rouges et le ciel d'un rose orageux. Des rochers encombraient le lit de la rivière, certains aussi gros que le vaisseau du consul. Le colonel Kassad abaissa la visière du casque de sa combinaison de combat et des parasites crépitèrent dans les écouteurs des Philcom.
« C'est de là que je suis parti, » dit-il. « Des taudis de la réimplantation de Tarsis, à une centaine de clics dans cette direction. »
Il montra d'un geste l'endroit où le soleil planait, petit et bas, au-dessus des falaises. La silhouette en combinaison, inquiétante par sa taille et sa corpulence, et le lourd fusil d'assaut, qui n'avait pas du tout l'air désuet ici, dans la plaine de Mars, se tournèrent vers Aîné.
« Que voulez-vous que je fasse, femme ?»
Aîné parla d'un ton de commandement rapide, précis et sûr.
« La Pax s'est retirée temporairement de Mars et du système de l'ancienne Terre à cause de la révolte palestinienne et de la réapparition de la machine de guerre martienne dans l'espace. Cet endroit n'a pas assez d'intérêt stratégique pour les retenir, alors que partout leurs ressources s'affaiblissent. »
Kassad hocha la tête.
« Mais ils reviendront. » Et en force, pas seulement pour pacifier Mars, mais pour occuper tout le système.
Elle se tut afin de regarder alentour. Je suivis son regard et aperçus de sombres silhouettes humaines qui venaient vers nous dans le champ de pierre. Ils portaient des armes.
Vous devez les en empêcher, colonel,
dit mon ami.
Faites tout ce qui est nécessaire. Sacrifiez autant d'hommes qu'il le faut. Mais gardez-les à distance du système de l'ancienne Terre pendant les prochaines 5 années standard.
Je n'avais jamais entendu Aîné parler d'une manière aussi inflexible, ni aussi cruelle.
5 années standard, dit le colonel Kassad.
Je pouvais voir son mince sourire derrière la visière de son casque.
Aucun problème. Si c'était 5 années martiennes, je pourrais avoir un peu de mal.
Aîné sourit. Les silhouettes se rapprochaient dans les rafales de sable.
Il faut que vous deveniez le chef de la résistance martienne,
dit-elle d'une voix implacablement grave.
Emparez-vous du pouvoir par tous les moyens.
Je le ferai,
dit Kassad, et la détermination de sa voix était égale à celle d'Aîné.
Réunissez les différentes tribus et factions guerrières.
Je le ferai.
Concluez une alliance définitive avec les spatiaux de la machine de guerre.
Kassad hocha la tête. Les silhouettes étaient à moins d'une 100 mètres. Je les vis lever leurs armes.
Protégez l'ancienne terre, dit Aîné. Gardez la Pax loin d'elle à tout prix.
Je sursautai. Le colonel Kassad dut être aussi surpris que moi.
Vous voulez parler du système de l'ancienne terre,
dit-il.
Non. De l'ancienne terre elle-même, Fedman. Gardez la Pax à distance. Vous avez à peu près 1 an pour consolider le contrôle de tout le système. Bonne chance.
Ils se serrèrent la main.
Votre mère était une femme belle et grave, dit le colonel. Son amitié a beaucoup compté pour moi.
Et la vôtre pour elle.
Les sombres silhouettes s'étaient rapprochées, tout en restant à couvert derrière les pierres et les dunes. Le colonel Kassad marcha vers eux, la main droite levée, le fusil d'assaut toujours sur son bras gauche. Aîné se rapprocha de moi et me reprit par la main.
Il fait froid, hein, Roll ?
C'était vrai. Il y eut un éclair de lumière comme un coup indolore à l'arrière de ma tête, et nous nous retrouvâmes sur la plateforme de la passerelle de l'Yggdrasil. Nos amis reculèrent en nous voyant apparaître. La peur de la magie à la vie dure. Mars tournait, rouge et froide, loin de nos branches et de nos champs de confinement.
« Quel cap, révéré qui enseigne ?»
observa Etmastine.
« Tournez-vous simplement vers l'extérieur, afin que nous puissions voir clairement les étoiles, »
répondit Aînée.